Bonsoir. Insécurité à Béni, 10 civils ont été tués lundi dans la localité de Mamouvé. Le flou persiste encore sur l'identité des auteurs de cette attaque. Cette série de massacres dure depuis 6 ans maintenant dans cette région du Nord Kivu. Cette fois-ci, l'armée souligne que les groupes armés, notamment les Maï Maï, jouent un mauvais rôle en devenant les béquilles des rebelles des EDF. Le porte-parole des opérations Sokola 1 les appelle donc à déposer les armes et à travailler avec l'armée et la population pour la pacification du territoire. Quelle analyse faire de cette série de massacres des civils qui durent depuis 6 ans à Béni? Quel pourrait être l'apport des hommes politiques, leaders religieux et communautaires au rétablissement de la paix à Béni? Nous en parlons ce soir avec Paul Mouindo, député national élu du territoire de Béni au Nord Kivu. Il est président du caucus des députés du Grand Nord. Il est également cadre du parti politique RCD-KML. Paul Mouindo, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly, et bonsoir à tous nos auditeurs.
Carlos Benga, chef des travaux à l'ISP Mwangi de Butembo, Nord Kivu. Il est cadre du parti politique Burek. Carlos Benga, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly. Bonsoir à l'honorable Paul Mouindo. Bonsoir à Monseigneur Issé Somo.
Évêque Mouindo Issé Somo, évêque du diocèse de l'église anglicane du Nord Kivu. Il est également président de l'église du Christ au Congo dans la ville de Butembo. Évêque Mouindo, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes très nombreux auditeurs de Radio Okapi à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Christian Kaleka depuis la ville de Kananga au Kasaï central. À mon avis, je pense que ce sont les hommes politiques qui sont à la base de cette insécurité dans l'est de la RDC. Comment comprendre que les FRDC qui ont toutes sortes d'armes n'arrivent pas à mettre fin à cette situation? Abbé Sylvestre Zakala depuis Dungu dans la province du Haut-Uele. Nous en avons marre avec les massacres des paisibles citoyens dans l'est de la RDC et plus particulièrement à Béni, que le président Félix Tshisekedi s'implique personnellement en associant aussi ses homologues rwandais et ougandais pour la pacification de cette contrée qui a trop souffert, que les fils et filles du milieu se désolidarisent de tout ennemi, qu'il soit congolais ou étranger. Nous avons besoin de paix. Merci de nous suivre à Béni sous la 92.0 et 92.3. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
D'octobre 2020, 6 ans jour pour jour, des massacres dans les territoires des Béni. Un bilan très sombre, plus de 3800 personnes tuées sauvagement à la hache et à la machette, plus de 215 villages abandonnés et plus de 316 000 déplacés internes. Telle est la situation que traverse la population de ce territoire depuis les débuts des massacres. Bilan dressé par Teddy Kataliko, président de la commission des contrôles, société civile, territoire de Béni. On l'écoute au micro de Blaise Chindani.
Et 6 ans après le massacre de Béni qui avait commencé en 2 octobre 2014, jour pour jour, comme vous venez de le dire, ça fait 6 ans. Effectivement, le bilan est très lourd, il est macabre. Plus de 3800 personnes tuées à la hache, à la machette, des têtes des enfants cognées sur le mur, des femmes enceintes éventrées, des hôpitaux, des centres de santé incendiés, des maisons. Le bilan, comme nous disions, il est très lourd après 6 ans. Même avant ça, en 2010, plus de 5000 personnes emportées dans la brousse. Jusqu'aujourd'hui, cette fête d'entrée ne sont jamais revenus. Donc, c'est quand même une situation très préoccupante au territoire de Béni. Et on dirait les 4 chefferies du territoire de Béni sont occupées par des groupes armés étrangers, mais aussi des groupes armés locaux.
Monsieur Teddy Kataliko, en tant que membre de la société civile, quelle pourrait être la solution pour vous pour éviter de telles atrocités dans cette partie du territoire national?
Oui, en fait, La solution la plus efficace est mettre hors du territoire congolais tous ces groupes armés. Et nous estimons que les opérations militaires bien planifiées, les opérations militaires conséquentes, bien sûr avec l'appui de la population, peuvent arriver à mettre hors de mire toutes ces tueries, tous ces massacres auxquels la population est en train de vivre. Et aussi une conjugaison d'efforts entre les États voisins, parce que les groupes armés étrangers ne sont pas venus de notre pays, sont venus des pays voisins. On devrait tenir compte d'une force internationale qui pouvait aussi appuyer le FARDC pour mettre fin à cette barbarie.
C'était la Teddy Catalico, président de la commission des contrôles société civile du territoire de Beni. Paul Mwindo, vous êtes député national élu du territoire de Beni au Nord Kivu. Vous êtes président du caucus des députés du Grand Nord également, cadre du parti politique RCD-KML. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous entendez ces chiffres donnés par la société civile de Beni sur les massacres de la population civile dans ce territoire?
Oui, je voudrais tout d'abord exprimer encore une fois, même si c'est des fois difficile, exprimer mes condoléances à toutes les familles qui sont et qui continuent à perdre les leurs, dont la mienne aussi. Vous savez, Madame Kelly, pendant que nous parlons ici, il y en a de ceux qui sont en train d'enterrer leurs frères, dont il y a deux de mon église qui sont en train d'être enterrés maintenant. La série de tueries qui se perpètre au niveau de Beni est une situation qui n'a jamais cessé de nous préoccuper du jour au lendemain. Et l'évolution de ces tueries et l'évolution de la situation telle qu'elle se présente, et nous avons comme impression que nous avançons à reculons. Et on avance à reculons. Déjà, à un moment, on peut se réveiller, nous prenons des dispositions, et puis après, tout revient, tout retombe comme si rien n'avait été fait. C'est notamment les cas, n'est-ce pas, des opérations qui avaient été lancées le 31 octobre. Et les opérations avaient été lancées et dans l'objectif de pouvoir, n'est-ce pas, mettre fin à cette barbarie. Malheureusement, encore aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser les mêmes questions. S'il faut revenir à la situation d'abord des Mamouvés, il faut rappeler que Mamouvés, les attaques qui ont eu lieu au niveau des Mamouvés font suite à une série des attaques dans la zone de Beni. Et il faut dire qu'à Mamouvés précisément, nous avons eu d'abord l'attaque le 2 octobre, le 2 octobre 2020. C'était un certain vendredi, donc vendredi de la semaine passée. Il y avait 7 personnes qui avaient été égorgées. C'était à 19h30 que les ennemis étaient entrés. Et pendant que les ennemis avaient fini, on avait alerté l'armée que ces gens n'étaient pas partis plus loin. Et ils sont effectivement revenus le 5 octobre, donc hier lundi, et ils sont venus, ils sont entrés à 6h juste, s'il vous plaît. Et là, ils ont attaqué de 6h juste jusqu'à 9h30. C'était dans le plein centre, n'est-ce pas, de Mamouvés. Et puis, on a encore alerté à l'armée, même à la MONUSCO, que voilà, que ces gens ne sont pas encore loin, ils sont toujours aux alentours des milliers. Ils ont encore attaqué au niveau des Mangas, c'est à 3 km de ce centre de Mamouvés. Vous comprenez, Madame Kelly, que 3 attaques d'une manière successive qui viennent d'endeuiller maintenant 17 personnes et plusieurs personnes qui ont été emportées prouvent en suffisance qu'il y a un problème sérieux. Et à cela, je voudrais également rappeler les attaques passées.
Oui, Paul
c'est important, c'est important parce que je vais chiter sur un élément important. C'est que on assiste à des attaques, malheureusement, chaque jour. Ces attaques où on assiste à la population qui dit qu'elle a alerté, et l'ennemi n'est pas poursuivi, et on est dans une confusion où des fois l'armée dit voilà, il faut qu'on puisse continuer à collaborer, qu'on puisse faire ceci. Je crois que ces genres de chants sont en train de plus en plus de fatiguer tout le monde. Il faut qu'on essaye de voir très clairement le vrai problème et pourquoi il y a réellement persistance de cette insécurité dans la ville et les territoires de Beni. Et pour cela, nous pensons qu'il y a quand même certaines raisons qu'il faut avancer à ce lieu ici. Au niveau de Beni, on a eu à envoyer, on avait dit qu'il y avait plus de 21 000 hommes qui avaient été envoyés. Ça, ce n'était pas vrai et cela devait être corrigé. De deux, il y a une démotivation au sein même de l'armée. Vous savez, on ne peut pas envoyer des militaires sur le terrain et ne pas totalement mieux assurer leur aspect logistique. Cela crée une démotivation. Et cela se fait voir sur le terrain où on observe, n'est-ce pas, de soldats qui sont vraiment des fois à difficulté de manger. Au point que certains d'entre eux sont des fois attrapés en train de voler certains biens de population. Et cela impacte sur la poursuite de l'ennemi. Et donc,
Paul Mouindo, au-delà de cela, oui. Paul Mouindo, et c'est ça qui serait à la base du fait qu'on n'arrive pas à mettre fin à cette situation d'insécurité 6 ans après dans le territoire de Béni.
En fait, 6 ans après, toutes les opérations qui ont toujours été organisées, à part l'opération que le général Baouma avait dirigée, qui aussi, malheureusement, après un moment, n'était plus financée, toutes les opérations qui sont souvent financées, qui ont toujours été organisées au niveau de Béni, à un certain moment, ces opérations sont délaissées et ne sont toujours jamais finies. Ça, c'est un constat de chaque jour. De deux, au-delà de cela, il y a un problème du fait que nous avons des militaires qui, généralement, sont longtemps dans la zone et ils ne sont jamais changés. De trois, la tactique de l'ennemi est connue et l'ennemi connaît la tactique de l'armée. Ce qui fait que, même si l'armée vient attaquer, l'ennemi peut savoir que non, bon voilà, les parts de ces attaques de cette façon, si, après un moment, ils vont se fatiguer et puis je vais attaquer. Et de trois, le fait que la collaboration n'a toujours pas des fois été bonne, n'a jamais souvent été bonne, lorsque les populations ont toujours alerté et que l'armée ne réagit pas. Donc ces causes-là, ces éléments-là, font de sorte que l'on puisse observer à un alignement de la situation sur le terrain.
Revenons sur la situation de Mamouré. On a suivi le porte-parole des opérations Sokola 1 qui affirme que ce sont les groupes armés, notamment les Mai Mai, qui jouent un mauvais rôle en devenant les béquilles des rebelles EDF. Et ça n'aide pas à neutraliser ces rebelles qui tuent, qui massacrent la population civile.
En fait, je pense que ça, ce sont des propos d'un aveu d'impuissance sur l'armée, parce que je me dis, c'est le même porte-parole qui a dit incessamment qu'il y avait une sorte de règlement des comptes en bas, et je crois que ce genre de propos sont des fois des propos qui illustrent que la situation est toujours analysée d'une manière légère. Vous savez que nous avons un cas de Maïmaï.
Est-ce que les Maïmaï...
Je vais en arriver. Nous étions à Béni avec les chefs d'état-major général et tous les députés. On avait fait appel aux Maïmaï. Les Maïmaï sont au niveau... Ils étaient sortis presque toute la forêt. Ils sont au niveau des Kalungouta. D'ailleurs, abandonnés. On devrait leur assurer une formation au niveau de Béni. Et puis après un moment, les utiliser. Mais selon ce qui leur avait été dit, chose qui n'a jamais été faite. Il y a d'autres Maïmaï qui sont cantonnés au niveau de Mangazi. Alors, lorsqu'on n'arrive pas à mieux encadrer des gens qui étaient sortis normalement de la forêt, dans l'objectif de se dire nous devons nous liguer avec l'armée pour mettre fin à cette sécurité, et qu'on puisse les abandonner. Et puis après un moment, on se réveille pour dire non, voilà, les Maïmaï qui ont des zones identifiées sont en train de déranger les gens. Je crois que c'est une totale confusion dans laquelle on voudrait encore plonger toute la nation entière.
Merci.
Moi, je pense qu'il y a une mauvaise perception, et une certaine légèreté. Et c'est ce que moi j'appelle une sorte de stratégie d'évitement. L'armée voudrait cacher ses faiblesses à travers des arguments fallacieux de ce genre. Il peut y avoir, c'est vrai, certaines petites collaborations de certains individus, mais cela ne doit pas être un argument pour dire à cause de ça nous n'arrivons pas à réussir. Comment comprendre que dans un centre de Mamouré, l'ennemi peut arriver à 3 reprises sans qu'il ne soit ni poursuivi ni attaqué? Il arrive au même endroit et puis dans une zone où il y a beaucoup de militaires FRDC et une forte présence de la MONUSCO.
Merci.
Donc,
Paul
la
Mouindo.
Est ailleurs.
On vous garde encore dans cette émission. Carlos Mbenga, chef des travaux à l'ISP Mwangi de Butembo Nord Kivu. Vous êtes cadre du parti politique Burek. Quel bilan ou quelle lecture vous faites du bilan dressé par la société civile du territoire de Béni sur les massacres de la population 6 ans après?
Bon, ça c'est une série noire qui ne cesse pas de s'allonger et au nombre de victimes qui continuent de s'alourdir, ce bilan macabre. Et je pense qu'un mot de condoléances n'est jamais de trop et et j'ai ce devoir moral d'adresser mes condoléances les plus attristées à toutes les personnes qui ont été touchées, y compris moi-même, y compris l'honorable Paul Mwende Baumawa, y compris Monseigneur Issé Somo, parce que nous sommes tous de la région, et dans la région du Grand Nord, nous constituons une même famille biologique, nous sommes un même clan, et nous avons des frères à Boutembo, d'autres à Beni, et il n'y a pas de frontière entre nous. Et je souhaite que les âmes des innocents qui périssent de cette façon-là puissent reposer en paix. Et ces innocents, il n'y en a pas seulement dans le camp des civils, il y en a également dans le camp des militaires. Donc là, j'adresse mes compassions à tous les déplacés, à tous les orphelins, aux veuves, aux blessés de guerre, aux invalides, et tous ceux qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre par ces ravages. Nous réservons à Dieu la vengeance et nous voudrions bien être utilisés un jour comme instrument de cette vengeance pour faire honneur au sang de nos compatriotes.
Alors, en tant que homme politique, Carlos Mbenga, comment vous expliquez-vous le fait que 6 ans après, on n'arrive toujours pas à maîtriser cette situation, on n'arrive pas à mettre hors d'état de nuire ou à éradiquer ces groupes armés qui soient étrangers ou locaux dans ce territoire de Beni?
Je pense qu'il est très difficile d'évaluer objectivement une situation comme celle-là lorsqu'on est directement touché soi-même, lorsqu'on est sous l'émotion. Mais je vais quand même fournir un petit effort pour analyser la situation à 3 volets. D'une part, je vais présenter le paysage dans lequel s'organise la riposte au massacre. Je voudrais parler aussi de quelques engrenages cycliques, des sortes de cercles vicieux dans lesquels nous mouvons dans cette situation de Beni. Et puis je vais présenter la manière dont la situation est complexe. Parlant du paysage, je voudrais d'abord faire noter que la guerre est menée par les institutions du pays, et son service technique, c'est l'armée, et son élément accompagnateur, c'est la population. Il faut parler de la situation de l'armée et des institutions politiques actuelles qui sont issues de ce qu'on appelle pacte de Sun City. Eh bien, ce sont des fruits de ce qu'on a appelé intégration, de ce qu'on a appelé brassage, ce qu'on a appelé mixage. Et donc, ce sont des institutions et une armée pas constituées sur des bases vraiment républicaines. Et en conséquence, nous avons des gens venus de différents bords qui ne s'étaient jamais concertés, ne s'étaient jamais entendus, qui se sont retrouvés ensemble par la force des choses. Et dans la plupart des cas, nous assistons à la méfiance, au manque de sincérité, à la difficile cohabitation interne même dans les institutions, à l'incohérence d'action, à la divergence d'agenda et d'intérêt, à la multiplicité des chaînes de commandement, parce que chacun a encore son chef à qui il rencontre quelque part dans les institutions ou en dehors des institutions, au pays comme en dehors du pays. Parce que, comme nous le savons, les guerres que nous avons connues et qui se sont soldées par un pacte de paix à Sun City, il y en avait qui avaient aussi des acquaintances avec des pays étrangers. Et dans quel état d'esprit se trouve la population quand on fait la riposte? La population vit dans un climat de psychose. Et cette psychose est savamment entretenue par des intox, avec des doses sans cesse renouvelées et diversifiées, diffusées à travers les réseaux sociaux et les canaux informels très actifs. Et cela donne lieu à des rumeurs dirigées soit contre les responsables étatiques, soit contre certaines obédiences politiques ou encore contre des agents du service de sécurité, en l'occurrence l'armée nationale.
Et qui serait derrière ces intox et rumeurs, Carlos Mbenga?
Je vais y arriver, mais je ne veux citer personne. C'est cela qui nous entraîne dans des engrenages plus ou moins cycliques, un cercle vicieux, un perpétuel recommencement. Suite à l'émotion, nous tombons dans des imprudences. Par exemple, il y a une attaque dans un village quelque part. Il s'ensuit des manifestations de colère. Ces manifestations sont émaillées de tiraillements entre la population et les forces de l'ordre de sécurité. Et ces tiraillements, cette cacophonie crée un terrain propice pour une nouvelle surprise meurtrière, et ainsi nous recommençons le cycle. D'autre part, il peut y avoir une attaque en mode guérilla, comme c'est souvent le cas. Et là, les forces de sécurité sont prises à contre-pied. Et cela crée dans la population, bien sûr, sous l'instigation de certains discours, un sentiment d'abandon par l'État.
Et quand on croit être abandonné par l'État, on se replie sur les forces dites d'autodéfense, dans l'ignorance des vrais agendas de ceux qui recrutent dans ces forces d'autodéfense. Cela crée face à l'armée la confusion, le débordement, donc l'armée est débordée, et finalement, ceux-là qui sont entrés dans les forces d'autodéfense deviennent un appui actif ou même passif aux tueurs, et le terrain devient de nouveau propice à une nouvelle attaque.
Donc le porte-parole militaire Carlos Benga a raison de dire que les Maïmaï, qui sont pour la plupart des forces d'autodéfense, jouent un mauvais rôle en devenant des béquilles des rebelles ADF.
Il peut avoir partiellement raison, mais toute l'analyse ne s'arrête pas là. Parce que dans cette répétition de massacres 6 ans après, je vois aussi le succès d'une stratégie de l'ennemi. Et cette stratégie consiste à faire la diversion et à maquiller ses crimes. En fait, l'ennemi, bien sûr, par le truchement de certains politiques, a su faire acquérir à une large opinion l'idée selon laquelle le tueur se trouve dans les institutions politiques et dans l'armée. Ainsi, on peut continuer, donc l'ennemi peut continuer d'opérer en toute sérénité, avec l'assurance que personne ne pourra penser à lui. Et même lorsque l'État veut orienter ses caméras ailleurs, cet État fait face à une sorte de clameur publique qui cherche toujours à le contraindre à n'exploiter que les pistes déjà configurées dans le mental des citoyens.
Et est-ce que vous voulez dire par là que toutes ces personnes qui pensent que certains tireurs de ficelles seraient au sein de l'armée ou de la classe politique ont tort?
J'ai déjà dit que notre armée est constituée de la manière qu'on connaît. Et donc, les séquelles du passé ne peuvent pas être directement éradiquées tant que les éléments qui ont été intégrés dans l'armée sont encore physiquement vivants. Mais j'ai dit que ce n'est pas seulement là la source de problèmes. Mais donc, si l'État persiste, comme je le disais, dans sa démarche, l'État fait face à une résistance populaire et sa démarche est au départ rendue populaire, et voué à l'échec. D'une autre manière, je crois que nous perdons un peu de temps dans certaines distractions ou spéculations. Par exemple, la polémique autour de l'identité des tueurs. Moi, je me demande si quand un voleur, un bandit entre chez vous, avant que vous vous débarrassiez de lui, vous avez besoin de savoir comment il s'appelle ou qui il est. Donc, la dénomination. Donc, on fait de la polémique autour de ADF, MTM, je sais pas, Maïmaï, alors qu'ils sont identifiés par les actes qu'ils posent. Ce sont des criminels. D'autres contestent aussi le fait qu'on peut les appeler des terroristes, on dit que ce ne sont pas des terroristes. Nous tournons en rond au lieu d'aller à l'essentiel. Parce que la question qu'il faut se poser est de savoir combien ils sont, où est-ce qu'ils se trouvent, comment ils se déplacent, comment ils se déplacent sur le terrain, quelles sont leurs sources d'approvisionnement, comment couper ces sources d'approvisionnement. Et c'est de cette manière qu'on va résoudre le problème.
C'est une question que les gens se posent, Carlos Benga. On va y revenir tout à l'heure. Le temps pour nous de donner la parole à l'évêque Mwindo Isesomo, évêque du diocèse, de l'église anglicane du Nord Kivu. Vous êtes évêque Mwindo également, président de l'église du Christ au Congo, dans la ville de Butembo, en tant qu'homme de Dieu. Comment vous analysez cette situation de Béni? Pourquoi, selon vous, cette situation perdure? Pourquoi on n'arrive pas à trouver une solution pour enfin sécuriser la population du territoire de Béni?
Oui, la situation sécuritaire ici à l'est de la République démocratique du Congo est très alarmante, mais aussi très dramatique. Il est difficile à l'Église d'accomplir sa mission tant qu'il y a des tueries du jour au lendemain. Je dirais que toute la province du Nord Kivu, et plus particulièrement le territoire et la ville de Béni, c'est la mer sans que personne n'en parle. Et je ne parle pas seulement du Nord Kivu, je vois toutes les contrées du pays longtemps meurtries, par exemple les Ituri, Masisi, Walikale, et actualité oblige Menembwe. Mais si je revenais du côté de Béni, je dirais comme conséquence, nous avons beaucoup de déplacés de guerre, nous avons beaucoup de veuves, nous avons beaucoup d'orphelins qui vivent sans aucune assistance. Et il y a également le blocage de toutes les activités, comme ici à l'Est, nous vivons des produits qui viennent de nos champs, alors les activités champêtres sont bloquées, les activités scolaires, même avant la pandémie, c'était déjà bloqué. Les activités commerciales, voire même les activités religieuses. Alors, je pense qu'on peut demander à l'État congolais de montrer la vraie volonté de coudre vraiment avec ce tueur. Et comment cela? J'ai quelques propositions. Je pense qu'il fallait relever les troupes qui ont fait longtemps dans la région. Également, il faudrait que le gouvernement puisse identifier à dévoiler les acteurs directs ou indirects partout où ils se cacheraient pour diminuer leur capacité de nuisance une fois connue de tous. Autre chose, c'est circonscrire les opérations militaires de grande envergure dans le temps. Et si possible, je souhaiterais qu'on puisse suspendre momentanément le commerce de cacao dans la zone opérationnelle, puisque selon le témoignage de certains, il semble être actuellement aussi un enjeu dans la question de Beni, en faisant qu'il fait circuler beaucoup d'argent à cette zone et surtout entre les mains des ennemis pour accroître leur capacité de nuisance. S'il le faut, il faudrait aussi ajouter les fils et les filles de la région dans le cercle rapproché du chef de l'État pour lui présenter chaque fois en temps réel l'évolution de la situation sur le terrain, comme beaucoup l'ont exprimé, tout en rendant grâce à Dieu pour sa venue, son arrivée à Goma.
Évêque Mwindo, c'est son mot. Vous souhaitez que l'on puisse relever les troupes qui ont fait longtemps, circonscrire les opérations dans le temps, mais c'est ce qui est en train de se faire. Malgré cela, la situation ne change pas.
Oui, comme les gens perdus là-bas, ils restent là-bas, ils deviennent comme des coutumiers, chefs coutumiers, ils ont des chats, ils font du commerce. Alors nous pensons que ça fait une cause, il faut qu'il soit relevé.
Mais vous, en tant qu'homme d'église, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre apport dans la pacification de cette partie du pays?
Oui, nous, comme église, notre premier apport, nous sommes en train de prier d'abord, c'est ça notre arme, et nous sommes en train de sensibiliser la population à la patience, mais nous sommes presque au bout et la population commence déjà à s'inquiéter et voire même certains qui ont perdu leur foi à cause de l'insécurité et certains commencent à dire est-ce que réellement Dieu existe? Si Dieu existait, comment pouvait-il accorder afin que nous puissions souffrir si longtemps?
Il y a certaines personnes qui parlent de collaboration entre la population et les groupes armés. Est-ce que vous avez le temps de sensibiliser cette population à se désolidariser de ces groupes armés et à collaborer plutôt avec les FRDC?
Oui, comme église, nous sommes en train de jouer son rôle, et plus particulièrement à sensibiliser la jeunesse à ne pas s'ingérer dans les groupes rebelles. Nous insistons beaucoup à ce que nos jeunes, s'ils aimeraient aider notre pays, puissent intégrer l'armée congolaise pour y aider de se joindre au groupe des rebelles.
Les auditeurs sont nombreux à réagir aussi au thème de ce soir. On va prendre pour vous, Paul Mwindo, cette réaction qui nous vient de l'Ituri.
Trésor Anditadji depuis la province de l'Ituri. Pour moi, la prolifération des groupes Mai Mai qui causent l'insécurité dans la ville de Beni. Et ce qui est pire est que cette même population collabore souvent avec les Mai Mai. Maintenant, chose intonante, les soi-disant Mai Mai n'ont jamais attaqué les ADF depuis le début de ces massacres. Cela me pousse maintenant à savoir quel est l'objectif des Mai Mai dans la région de Beni, car la population continue toujours de mourir au jour le jour sans une intervention de ces Mai Mai. Pour moi, à la deuxième question, l'apport des leaders religieux et les hommes politiques, c'est de faire confiance à l'armée congolaise et de se désolidariser de ces Mai Mai qui n'ont jamais réussi à faire face aux ADF depuis le début de ces actions qui menacent la zone.
Paul Mwindo.
Merci beaucoup. En fait, moi, je crois d'abord, dans un premier temps, il faut donner des précisions importantes à ce stade d'idée. Parce que les débats sur la collaboration civile, militaire, se posent de plus en plus. Je voudrais aller au cas par cas et en synthèse. J'ai devant moi ici un tableau qui va du 30 décembre au 31 janvier. Et nous avions, parce que nous avions nous-mêmes installé l'état-major civil avancé à Béni. Dans cet état-major, l'objectif était de pouvoir prendre toutes les alertes et les canaliser auprès de l'armée. Et Madame Kelly et tous les auditeurs qui nous suivent, au cours du mois de janvier, nous avions enregistré 33 alertes. Et sur les 33 alertes, les alertes venaient des populations et on indiquait bel et bien où se trouvait l'ennemi. Et nous étions en train de transmettre ces alertes auprès des services de sécurité. C'était le commandant Axenon, le commandant à place, c'était les chefs de renseignement. Et sur les 33 alertes de Mme Kelly, il y avait 23 alertes où il n'y avait aucune réaction de l'armée. Et nous avons noté ici, pas d'intervention. Ça veut dire, vous informez à l'armée ou à la MONUSCO que l'ennemi est à tel endroit. On vient, on tue, et puis il n'y a rien. Il y avait 6 alertes où il y avait des interventions, mais sans poursuivre l'ennemi. Et d'autres, il n'y avait pratiquement pas de réaction. Ça, c'est la première précision. L'armée, la population a toujours joué ce rôle. Je vous prends le cas de Kinyambaoré, c'est à secteur Wenzori. Une semaine avant, on avait alerté qu'il y avait des positions inconnues proches de Kinyambaoré. L'armée était alertée une semaine avant. Je parle de Kinyambaoré. Et il n'y avait aucune réaction de l'armée jusqu'à ce qu'on ait parvenu à tuer 20 civils. Je prends le cas de Mbaou. En Mbaou, dès un jour avant, on avait signalé qu'il y avait une présence des ennemis proches de Mbaou. Il n'y avait pas non plus de réaction. On était venu tuer la population et la déclaration du porte-parole, ce sera de dire qu'il y a un règlement des comptes. À Mamové, ils sont entrés à Plessandreville. À Plessandre, c'est entre deux positions. Ils sont entrés le 2, ils sont revenus le 5, et maintenant ils sont à Mangazi, sans aucune réaction. Est-ce que vous pouvez vraiment vous mettre à la place de cette population qui n'a jamais cessé d'alerter les hommes qui ont les armes pour pouvoir tirer contre les égorgeurs, mais que les hommes qui ont les armes, ça veut dire l'armée et la MONUSCO, ne parviennent pas à intervenir, et qu'on puisse davantage continuer à dire que cette population ne collabore pas? Donc pour moi, en tout cas, je vous l'ai dit, je suis très public, les tableaux, je vais les rendre publics, nous détenons des éléments sur les différentes alertes des populations.
Pensez qu'il faudra améliorer cette collaboration entre la population et les FARDC, et même donc, avec la MONUSCO?
Pour moi, je pense qu'améliorer, c'est moins fort. Il faut plutôt sanctionner tous ces auteurs qui sont toujours alertés, mais qui ne réagissent pas. Parce que même la Bible le dit qu'une sentinelle, lorsqu'elle voit des gens venir vouloir tuer sa ville, et que cette sentinelle alertée, si l'armée ne réagit pas, il ne sera pas responsable. Mais s'il informe, et s'il voit les ennemis et qu'il n'alerte pas, c'est lui qui sera le responsable.
En tant que leader, en tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous faites pour le rétablissement de la paix?
Je voudrais effectivement citer sur cette question. Je vous ai dit tantôt ici que nous avions installé un état civil avancé. Ça veut dire, nous étions en train de centraliser toutes les informations. Même jusqu'à présent, nous donnons les informations à l'armée. Mais ce que nous demandons, c'est qu'il faut que notre gouvernement, il faut que l'État congolais arrive à sanctionner ceux qui refusent d'intervenir. Mais à un moment, nous comprenons pourquoi ils n'interviennent pas, peut-être puisqu'il n'y a pas de carburant, peut-être puisque les soldats ne sont pas bien motivés. Et ça, c'est le rôle du gouvernement congolais. Voilà pourquoi nous avons parlé d'une démotivation, n'est-ce pas, programmée par Kinshasa. Et nous avions, pour ce qui concerne les Maïmaï, je vous ai dit, les Maïmaï, nous les avions, n'est-ce pas, mobilisés pour qu'ils quittent la forêt. Ils sont à Kalunguta, ils sont à Mangazi et ils attendent une formation qui leur avait été promise au niveau de Beni, chose qui n'est jamais venue. De trois, je crois que par rapport à cette conception, à l'alignement de la situation au niveau de Beni, je crois que de plus en plus, la stratégie militaire est en train de démontrer ses limites. Je crois qu'il faut qu'on arrive davantage à changer ou à renforcer, à faire ce que nous appelons une diplomatie agressive. Et cette diplomatie doit être d'abord régionale.
D'abord, il faut partir du Rwanda et de l'Ouganda, mais également au niveau de Kinshasa. Parce que les politiques au niveau de Kinshasa doivent également totalement mieux jouer leur rôle.
Merci.
Il faut également, sur le plan international, que cette diplomatie soit totalement et davantage élargie autour de la MONUSCO, mais surtout, je parle ici des États-Unis, de la Grande-Bretagne et même de l'Afrique du Sud. Ces pays peuvent davantage aussi jouer un rôle important dans ce qui se passe chez nous. Parce qu'il faut dire qu'il y a un complot. Il y a un complot contre le peuple et les territoires de Béni.
Merci.
À 2008, je vais le dire, je suis par là. À 2008, il y a un État qui avait sollicité d'avoir les territoires de Béni, la ville de Butembo et un autre territoire aussi de Kivu, parce qu'il fallait qu'on puisse y implanter d'autres peuples. Le gouvernement congolais connaît bien ce dossier. Et je crois qu'il faut à un moment que la position du gouvernement soit claire. Nous ne pouvons pas accepter à ce que la terre de Béni soit donnée ou accordée à d'autres personnes.
Merci Paul Mouindo. Carlos Benga va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient d'Ariwara.
C'est sûr, Benjamin, depuis Ariwara, territoire d'Aro. À mon avis, l'ennemi se cache parmi la population qui lui offre une hospitalité. Je ne pense pas que les hommes politiques s'expliquent pour mettre fin à la sécurité à Béni. Pourtant, ce sont eux qui soutiennent les groupes armés au Congo. Il faut une forte sensibilisation de la part des religieux l'amour du prochain. En effet, certains Congolais l'ont déjà oublié, d'où ils deviennent la cause de la souffrance à leurs frères et sœurs congolais.
Carlos Benga, qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue de Benjamin qui pense que l'ennemi se cache parmi la population, lui offre une hospitalité. Il ne faut pas compter sur les hommes politiques pour essayer de trouver une solution par rapport à la situation sécuritaire dans le territoire de Béni, parce que vous-même, vous êtes impliqué dans cette insécurité. Carlos Benga, je crois qu'on a perdu Carlos Benga. La réalisation va essayer de le rappeler. Évêque Mouindo, Issé Somo, vous avez suivi cet auditeur qui pense que les hommes politiques seraient aussi impliqués dans cette situation d'insécurité dans le territoire de Béni. Il faut une forte sensibilisation de la part des religieux sur l'amour du prochain.
Oui, ce qu'il a dit, c'est vrai. Nous, Église, nous devons travailler en collaboration avec les politiciens. Et malheureusement, il y a des fois où les politiciens ne tiennent pas compte des religieux. Et ça peut donner une solution. Si on se mettait ensemble, c'est à cela que vous m'avez coupé quand j'étais en train de dire que, par exemple, l'arrivée de notre président à Goma, il fallait qu'il prenne une décision de descendre aussi sur Béni, parce que la Bible nous dit qu'il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Alors, si on collabore comme ça, c'est parce que nous pouvons atteindre des résultats positifs.
Et quel message vous avez envie de lancer à toute cette population, à tous ces auditeurs qui nous suivent à partir du territoire de Béni? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, évêque Mouindo Issé Somo? Quel message d'espoir vous avez envie de donner à cette population?
Oui, le message que je peux lancer à toute la population, c'est leur dire que malgré la souffrance, malgré les difficultés que nous sommes en train de traverser, notre Dieu ne nous a pas encore abandonnés. Nous espérons qu'un jour, il pourra mettre fin à cette insécurité. Autre message que je peux adresser à la population, c'est continuer également à ne pas s'associer dans les groupes étrangers, les groupes rebelles, que nous puissions être honnêtes et s'il y a des choses à dévoiler, qu'on puisse les dévoiler pour que notre gouvernement congolais puisse être informé de tout. Parce qu'il y a des fois où peut-être la population peut avoir des informations, elle cache ça. Mais il y a une fois qu'ils ont eu des informations, ils révèlent ça, on informe l'autorité, donc la hiérarchie. Mais comme mes frères le disaient, et souvent on regrette, il y a des fois même si la hiérarchie est formée, elle garde le silence. C'est ce que nous condamnons et nous n'aimerions pas que cela puisse continuer. Nous continuons à persévérer, nous avons espoir qu'un jour, notre Dieu, nous comme chrétiens qui avons toujours confiance en lui, il pourra mettre fin à cette situation.
Merci, évêque Mwindo Issé Somo, évêque du diocèse de l'église anglicane du Nord Kivu, également président de l'église du Christ au Congo dans la ville de Butembo. Nous considérons cela comme votre conclusion. Paul Mwindo, c'est vrai que vous avez déjà proposé plusieurs fois des pistes, des solutions pour mettre fin à cette situation d'insécurité dans le territoire de Beni. Le chef de l'État séjourne à Goma depuis hier lundi. Vous pensez que cette présence pourrait changer les choses sur terrain?
Oui, nous continuons à croire à l'engagement du président actuel de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi, et sa présence au Nord Kivu. D'ailleurs, il a reçu aujourd'hui notre délégation au niveau de Goma, et ce qui nous réjouit. Et nous aimerions simplement insister sur un fait. Pour mettre fin à cette problématique des Maïmaï, les Maïmaï sont déjà sortis de la forêt et ils sont à Kalunguta. Et d'autres sont à Mangazi, d'autres attendent d'avoir un cas au niveau des libéraux. Il faut que l'on puisse résoudre urgemment cette question en les accordant une formation à partir de Beni, à partir des libéraux, dans leur centre respectif, et que ceux-là qui avaient détourné leur argent puissent être aussi mis aux arrêts. Ça, c'est un. De deux, il faut qu'il y ait une diplomatie agressive contre, avec tous les pays que nous avons cités, notamment le Rwanda, l'Ouganda, les États-Unis ainsi que la Grande-Bretagne. De trois, il faut que le militaire et les services qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à répondre aux alertes des populations, que ceux-ci soient aussi, n'est-ce pas, toujours mises aux arrêts. Enfin, il faut aussi que ceux qui peuvent être considérés comme, n'est-ce pas, collabos des ennemis, que cela soit traité comme tel et qu'ils soient considérés comme, n'est-ce pas, ennemis. Et non dire que quand on a attrapé un monsieur, qu'on puisse, n'est-ce pas, considérer ou globaliser cela sur l'ensemble de toute la population, comme quand on peut attraper un militaire dans un désordre, on ne peut pas se permettre de dire que c'est tous les militaires. Donc chacun doit répondre de ses propres fautes. Cette Merci. Globalisation crée des frustrations et cela ne peut pas permettre une bonne résolution de la paix au niveau de Beni.
Merci Paul Mwindo. Nous sommes à la fin presque de notre émission. Quel pourrait être l'apport des hommes politiques au rétablissement de la paix à Beni, Carlos Benga?
Bon, je suis vraiment désolé du mauvais tour que nous a joué la connexion, mais je pense que les hommes politiques et les leaders religieux et les acteurs communautaires peuvent apporter leur contribution en s'investissant dans l'éducation à la citoyenneté. Après évaluation participative de l'activisme de certains jeunes à travers les groupes armés. C'est-à-dire qu'on fasse le bilan depuis qu'on a commencé à intégrer les groupes armés, que ces groupes armés ont commencé à opérer. Qu'est-ce que nous avons gagné? Je pense que cela peut nous permettre de revenir sur le bon chemin. Alors, comme ce sont des jeunes qui ont envie de se battre, je pense qu'on peut capitaliser cette envie en orientant les jeunes, en les encourageant à s'enrôler dans l'armée régulière. Et il faut initier des actions populaires, propres à faire pression directement sur les auteurs des massacres, parce qu'on a déjà fait assez de pression sur les institutions, sur l'armée, mais les tueurs sont très tranquilles dans la brousse. Nous devons nous atteler aux initiatives qui génèrent plus de cohésion et de cohérence face aux dangers communs que représentent les massacres, et tout citoyen doit s'impliquer. Et concernant l'État doit prendre le temps d'organiser une offensive globale, simultanée, instantanée, à diriger vers les vraies cibles et en tenant compte des différentes dimensions de la guerre. Parce que la guerre qui se passe à Beni n'est pas seulement militaire, elle est aussi diplomatique. La guerre est politique, la guerre est économique, la guerre est sociologique, la guerre est foncière, c'est autour de la terre. On se dispute des champs, on se dispute des concessions, on se dispute des parcelles. La guerre a une dimension religieuse parce que certaines recherches ont commencé à dénicher des islamistes terroristes à Beni. Donc, le massacre de Beni, c'est une sorte d'hydre ou de serpent à multiples têtes, de sorte que quand vous coupez une tête, l'autre tête continue à faire vivre le serpent et permet à l'ancienne tête de se régénérer. Donc, on doit boucher tous les affluents qui donnent de l'eau au grand fleuve qui fait couler le sang à Beni. Et ça, c'est un devoir qui exige de chacun un dépassement Okay, on ne peut pas y aller avec de l'égoïsme.
Merci Carlos Benga. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, Axel Gonto, merci à Polydor Basunga qui était à la prise de son, présentation et coordination. Kéline Kouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.